commencé ce colloque en faisant appel à Madame Kerbache, qui nous arrive de Montpellier. Le docteur Alain Kerbache est psychiatre, responsable médical de l'unité de soins pour le psychotraumatisme de l'enfant et de l'adolescent au CHU de Montpellier, hôpital Saint-Éloi, service médecine psychologique de l'enfant et de l'adolescent. Elle enseigne aussi à la faculté de médecine de l'université de Montpellier-Nîmes et est conférencière professionnelle pour des organisations internationales. Elle est également membre de l'équipe de recherche INSERM U1018, dont le titre est « Psychiatrie et développement au Centre de recherche d'épidémiologie et santé des populations ». D'origine libanaise, elle a exercé à Beyrouth de 2014 à 2020, où elle a été consultante pour l'Organisation internationale de la migration. Elle a travaillé avec différentes populations migrantes dans la région du Moyen-Orient. Et elle vient de publier aux éditions Ellipse un livre intitulé, que vous trouverez sur la table de presse, « J'accompagne mon enfant face au traumatisme ». Au cours de son intervention, Madame Kerbache va distinguer les traumatismes de type 1, que nous avons tous à un moment ou à un autre subi, mais qui ont la particularité d'être liés à un événement traumatisant, unique, aigu et isolé. Elle va le distinguer des traumatismes de type 2, qui sont provoqués par des événements traumatisants, répétés et prolongés dans le temps, correspondant tout à fait au public que nous accompagnons en protection de l'enfance. Elle va nous détailler pour nous les manifestations cliniques, plus particulièrement de ce deuxième psychotraumatisme complexe, durant l'enfance et l'adolescence, et surtout, ce qui est très important pour nous, c'est qu'elle va notamment détailler les manifestations. Elle va notamment détailler la prise en charge qui permet d'y faire face. Madame Kerbache, à vous.
Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie les organisateurs de cette invitation. Et en fait, là, aujourd'hui, je vais vous parler du psychotraumatisme complexe, mais je crois que quand on parle du psychotraumatisme, c'est toujours important de commencer par une histoire, un vécu un peu personnel. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je suis invitée pour intervenir, pour parler de psychotraumatisme, que ça soit complexe, aigu, de guerre, interpersonnel, je rends peut-être hommage à cette personne en parlant un peu de ce vécu personnel. Et donc je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé avec moi en 2013. Comme ça, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et vous allez tout de suite comprendre la différence entre un traumatisme aigu et un traumatisme complexe. Donc en 2013, j'étais fraîchement diplômée en tant que psychiatre. Vous allez peut-être deviner mon âge maintenant, mais c'est pas grave. Et donc j'étais à Beyrouth, j'exerçais à Beyrouth, je commençais tout juste à exercer à Beyrouth et j'étais très intéressée par la problématique des réfugiés et des migrants à Beyrouth parce qu'on en a vraiment beaucoup et ils vivent dans des conditions de précarité absolue, dans des conditions aussi d'oppression, de violence structurelle, mais ça c'est un autre sujet. Et donc j'avais été recrutée par Médecins Sans Frontières pour faire une mission de 6 mois, c'était une mission, donc c'était un travail, dans les camps de réfugiés palestiniens dans le sud du Liban. Et c'est un camp qui est où il y a un état de tension chronique avec des conflits entre les différentes factions armées palestiniennes à l'intérieur du camp. Et donc les enfants et les gens dans ce camp, ils vivent dans cet état de chronicité depuis l'instauration des camps. Et je travaillais avec un infirmier qu'on appelait Mo, et qui était donc d'origine palestinienne, du camp, originaire du camp. Et vous savez, au Liban, bon, les Palestiniens, ils n'ont pas le droit de travailler en dehors des organisations internationales, ils n'ont pas le droit d'acheter des appartements, ils n'ont pas le droit d'être naturalisés. Bon, bref, toute sa vie était dans ce camp, il ne connaissait rien d'autre, et il travaillait avec MSF. Et il nous avait fait tout un protocole. Au début, je me souvenais très bien, on est arrivés, ils nous ont fait tout un protocole qu'en cas, s'il y a quelque chose, s'il y a une suspicion d'attaque terroriste, s'il y a une suspicion de confrontation entre les camps, il y a tout un protocole, vous appelez ce numéro, vous allez, on vient vous évacuer, etc., etc. Et moi, je me suis dit, bon, ça ne va pas arriver, c'est juste des protocoles, c'est rien, on s'inquiète pour rien. Et un jour qu'on était dans la clinique, donc moi, j'étais avec un patient hémo, il travaillait juste à côté avec ses dossiers. Et en fait, il y a eu le meurtre d'une personne, d'un homme, devant notre clinique. Je vous épargne les détails parce qu'on a tout vu. C'était juste vraiment devant la vitre. Et on a vu l'homme, le sang, le cadavre, etc. Bon, bref. Et donc, moi, évidemment, j'ai complètement paniqué. J'ai commencé à hurler. Là, maintenant, quand j'essaie de me rappeler de cette scène, je me souviens encore de la peur, de la panique qui m'a envahie. J'ai tout balancé en l'air. J'étais complètement affolée. J'ai appelé tout de suite le numéro. Je ne sais pas comment j'ai pu, en tout cas, appeler le numéro. Et je criais comme ça partout. Mo, il faut y aller, il faut y aller. Et quand j'ai regardé comme ça, et j'ai vu Mo qui était là, en train de ranger ses dossiers. Et il était absolument imperturbable. Il n'a pas crié, il n'a pas hurlé. J'ai eu l'impression comme s'il n'avait rien senti ou comme s'il n'avait vraiment pas eu peur. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il faut absolument qu'on parte parce que là... Et il me disait, non, je vais finir mon travail et je partirai après. Et donc, bien sûr, après, on l'a forcé, on l'a mis dans la voiture et on a été évacués. Et donc, moi, je suis restée 2 semaines, je ne pouvais pas aller... au travail, j'étais vraiment très mal. Et quand je l'ai revue, donc après un certain temps, bon, les choses ont repris leur cours et je suis revenue. Et quand je l'ai revue, un mot, je lui ai dit, écoute, Mo, vraiment, moi, je suis désolée de ma réaction. J'ai eu une réaction vraiment pas professionnelle du tout. J'ai complètement paniqué, genre presque j'allais laisser tout le monde et partir parce que j'avais très peur. Et toi, vraiment, tu n'as pas paniqué, tu es restée très calme. Et vraiment, je suis désolée d'avoir fait ça, mais il fallait absolument qu'on parle. Et là, il m'a dit quelque chose que j'oublierai jamais. Il m'a dit, écoute, c'est moi qui suis désolée parce que c'est toi qui as eu une réaction normale. Mais moi, je n'ai même plus peur, ça ne me fait même plus peur. En fait, ça ne me fait rien. Donc, je ne ressens rien. Que je sois vivant ou que je sois en vie, pour moi, c'est la même chose. Si j'étais pas mort ce jour-là avec toi dans la clinique, eh ben, j'aurais été mort, je vais être mort un autre jour parce que moi, ma vie, c'est ça et je ne pourrais pas sortir d'ici. Et un jour, je vais être mort dans des tirs entre deux factions armées et ça va être ça. Donc, pour moi, c'est moi. Moi, j'aurais aimé me sentir encore humain. J'aurais aimé sentir encore cette peur que toi, tu as ressentie. Et voilà, et ça m'a fait quelque chose parce que je me suis dit que, bon, finalement, cette réaction que lui, il a eue, que j'ai compris après comme étant de la dissociation, et on va en parler puisqu'il avait eu une réaction, si on va parler maintenant en termes un peu psychiatriques, on va décrire psychiatriquement ce qui s'est passé, on va oublier le vécu de côté et on va décrire de façon psychiatrique ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que moi-même, le docteur Kerbaz, j'ai fait des réactions de stress aiguë. Donc j'ai fait une hyperactivation de mon système de défense au stress et de protection contre un danger, qui est une réaction tout à fait normale et tout à fait adaptée quand il y a un danger. Quand il y a un danger qui nous menace, eh bien soit on va s'enfuir, soit on va tout faire pour s'enfuir, soit on va essayer de combattre le danger. On peut aussi essayer de geler pour ne pas être atteint par ce danger, mais en tout cas, on a une activation du système neurovégétatif pour nous protéger contre ce danger. C'est un danger qui est aigu, qui est brutal. Voilà, on vivait notre vie et soudain, il y a bam, quelque chose qui arrive et tout notre système, il en est perturbé et on a peur. La peur, c'est une émotion normale et on cherche à se protéger du danger. Et donc, moi, j'ai fait des réactions de stress aiguës, on va dire normales, entre guillemets, adaptatives, entre guillemets. Et Mo, lui, il avait en fait son système de défense face à la menace et face au stress. Il est profondément, on va dire... Il fonctionne différemment. Il est perturbé parce qu'il a eu un vécu répétitif et cumulatif de menaces. Donc depuis qu'il est enfant, il vit dans un environnement où il risque de mourir tous les jours à cause de tirs, de conflits, d'instabilité, en tout cas dans un environnement où il n'est pas stable, où il n'est pas sain de vivre. Et donc, il s'est construit un peu sur ça. Et vous pourrez me dire, bon, bah, c'est sa façon de survivre. Bien sûr, c'est sa façon de survivre, parce que c'est comme ça qu'il survivait dans le camp. C'est comme ça qu'il arrivait à avoir un job, malgré tout, avec Médecins Sans Frontières, à subvenir à ses parents, à avoir un semblant de vie normale, bien qu'il puisse sortir nulle part, qu'il n'a pas de passeport, qu'il ne peut pas voyager, qu'il peut aller nulle part, et que donc, il a bien un horizon bien limité. Mais par contre, ces réactions qu'il avait, il l'aidait à survivre dans l'environnement dans lequel il vivait. Et pour les enfants chroniquement maltraités, c'est pareil. C'est-à-dire que les réactions que les enfants chroniquement maltraités ils vont avoir dans leur lieu de vie de maltraitance sont des réactions de survie. Donc ils vont très vite apprendre à se dissocier quand il y a quelque chose qui peut les atteindre ou quand il y a quelque chose qui peut les menacer. Ils vont très rapidement constituer une image de soi et des autres et du monde. Le monde est menaçant, je ne peux faire confiance à personne. Leur schéma cognitif, il est basé sur ça. Le monde est menaçant, je ne peux faire confiance à personne. Si je m'attache à quelqu'un, il va me faire du mal, donc il vaut mieux que je m'attache à personne. Si on est gentil avec moi, c'est suspicieux, donc je ne vais pas répondre ou je vais être agressif. Et donc, leur monde, puisque leur propre, on va donner l'exemple d'enfants qui ont été maltraités dans leur lieu donc familial, violence interpersonnelle dans le milieu familial, eh bien, ces enfants, si leur propre, dans leur schéma cognitif, si mes propres parents n'ont pas pu m'aimer, me valoriser, me donner la sécurité, qui est-ce qui va pouvoir alors m'aimer, me valoriser, me donner la sécurité? Et donc c'est dans cette conception fondamentale que va construire, à partir de cette conception fondamentale que l'enfant, en tout cas maltraité ou victime de maltraitance, il va construire toute sa vision du monde. Et c'est très différent de quelqu'un qui vit dans un environnement très soutenant, qui vit dans un environnement, on va dire, normal. Bon, j'utilise le terme normal, j'aime pas trop utiliser ce terme, mais oui, c'est quand même un environnement normal où on lui donne les ressources nécessaires pour s'épanouir, pour grandir, et qui un jour est victime d'un événement traumatisant, disons même un attentat terroriste, même si c'est un événement traumatisant très grave, agression sexuelle, mais que dans son environnement familial, il est protégé et soutenu, il aura beaucoup moins de répercussions psychologiques que quelqu'un qui est chroniquement maltraité, parce que quelqu'un qui est chroniquement maltraité, il a dans le fond un dérèglement de sa façon de voir le monde à cause de ce traumatisme cumulatif et chronique. Voilà, donc voilà comme introduction, mais ça on va en parler encore et encore, mais là, je trouve que Primo Levi, il a bien saisi, il a bien décrit, même avant que le DSM, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, même avant que ce manuel existe, Primo Levi, il avait bien compris le phénomène de dissociation qui arrive souvent, ça peut arriver dans les traumas aigus, mais c'est beaucoup plus fréquent dans les traumatismes chroniques et complexes. Et donc, il dit, donc un survivant, bien sûr, vous connaissez bien sûr tous Primo Levi, un survivant qui a été dans les camps de concentration. La faculté qu'a l'homme de se creuser un trou, de sécréter une coquille, de dresser autour de soi une fragile barrière de défense, même dans des circonstances apparemment désespérées, est un phénomène stupéfiant qui demanderait à être étudié de près. Il s'agit là d'un précieux travail d'adaptation, en partie passif et inconscient, en partie actif. Et donc, Primo Levi, il nous explique finalement une chose qu'on connaît peut-être intuitivement. L'être humain est programmé pour survivre. On est programmé pour survivre. On veut survivre. En général, l'être humain, il veut être, il veut exister, il veut survivre. Et donc, quand il y a un environnement qui est extrêmement traumatisant et maltraitant, l'enfant, il va tout faire pour survivre. Il va développer des mécanismes, même si nous, ils nous paraissent pathologiques et maladaptatifs, pour survivre. Et tout le défi, et je pense que vous êtes face à ce défi, vous, parce que je suppose que vous êtes surtout des professionnels en contact avec des enfants qui sont victimes de maltraitance chronique, et tout le défi, il réside justement, comment est-ce que moi, je vais pouvoir aider cet enfant à lâcher ces mécanismes maladaptatifs et à pouvoir construire d'autres façons d'être avec le monde, d'autres façons d'être avec lui-même. Et c'est très difficile, je ne dis pas du tout que c'est une tâche facile, parce que autant le trauma aigu Et bon, là, on va y arriver. Je vais arrêter de sauter d'une idée à l'autre parce que... Donc, parlons un peu généralement. Donc, généralement, il y existe un taux mondial extrêmement élevé d'exposition à des événements potentiellement traumatiques, quels qu'ils soient, que ça soit aigu, chronique. Donc, c'est un taux vraiment très élevé, puisque dans des enquêtes qui ont été faites à travers le monde, 70% des différentes populations étudiées, donc 70% des personnes dans les populations à travers le globe, que ce soit en Asie, en Afrique, aux États-Unis ou en Europe, ils déclarent avoir été victimes au moins une fois dans leur vie, d'un événement potentiellement traumatisant. Les enfants et les adolescents sont plus à risque, ils sont plus vulnérables parce que bien évidemment ils peuvent moins se défendre. Au niveau mondial, ont vécu au moins un événement traumatique au cours de leur vie. Et une enquête, l'enquête Virage par l'Institut des études démographiques en 2015, elle a démontré que dans la population adulte, 17 à 22% des femmes ont signalé avoir été dans l'enfance victimes au moins une fois d'une agression dans le cercle intrafamilial. 17 à 22%, donc c'est énorme. Et les hommes, c'était 12 entre 18%. Donc c'est quand même énorme, c'est un problème fréquent. On voudrait bien qu'il n'existe pas, parce que c'est la cause de tous nos malheurs, de tous ces malheurs qu'on voit, mais il faut reconnaître que c'est un problème fréquent, que c'est un problème qui existe et qu'on va devoir faire avec et composer avec en termes de prévention et de prise en charge. Donc là, je ne vais pas vous lister tous les exemples d'événements potentiellement traumatiques, puisque nous, notre propos aujourd'hui, il parle surtout du contexte des violences interpersonnelles, souvent dans le cercle familial, cumulatives, chroniques et répétées. C'est donc plutôt dans le cadre de la maltraitance infantile. Après, il y a tout un tas d'événements potentiellement traumatisants auxquels qu'on peut vivre, comme un état, par exemple, de guerre chronique, comme de vivre une agression sexuelle, violence sexuelle, des accidents graves de la route. Mais toutes les études ont montré que le type de traumatisme le plus délétère était justement le traumatisme, ce qu'on appelle le traumatisme interpersonnel et de surcroît intrafamilial. Chronique et cumulatif, c'est le genre de traumatisme qui est le plus chronique, qui est le plus délétère de tous les autres traumatismes. On peut lister plein d'événements, mais il en reste pas moins que si on veut vraiment comprendre le psychotraumatisme, quel qu'il soit, il faut avant tout comprendre que c'est une expérience. C'est pas une liste exhaustive d'événements. On peut lister bien sûr tout ce que les parents maltraitants ont fait, mais ce qui rend traumatisant tout ça, c'est l'expérience de l'enfant, son expérience d'impuissance. Ce sont des adultes, en fait, des adultes qui sont en train de l'abuser. Donc, c'est un vécu d'impuissance. Et ce vécu d'impuissance, il va le garder avec lui et il va essayer de s'en défendre. Et le pire, c'est que quand il arrive à un environnement sécurisant, que les symptômes commencent à se manifester. Donc souvent, par exemple, moi, j'ai été déjà en contact avec des familles d'accueil ou des foyers qui viennent de recevoir un enfant qui vivait dans un environnement sévèrement maltraitant et qui est vraiment ingérable les premiers jours. Il est ingérable, il est opposant, il reste enfermé dans sa chambre, il fait tout balancer. Donc ce sont des réactions extrêmement communes et fréquentes. Et c'est normal aussi de s'inquiéter parce qu'on a peur que ça reste comme ça tout le temps. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet enfant qui a un vécu d'impuissance, de perte de contrôle et d'effroi de façon chronique, quand il se retrouve soudain dans un environnement où un adulte lui parle gentiment, lui propose à manger, lui propose des choses, est gentil avec lui, et ben pour lui c'est effrayant, c'est encore plus effrayant qu'un parent maltraitant et abuseur. Et ça peut sembler contre-intuitif ce que je raconte, mais lui, il s'est construit sur un mode où je suis en train toujours de me protéger et d'attendre le pire de l'adulte. Et là, finalement, il y a une adulte qui me sourit, qui me demande ce que je veux manger, qui me demande mon avis sur ci, sur ça, qui me parle, qui me demande comment je ressens. Et ça, c'est quelque chose auquel cet enfant n'est pas habitué. Et donc, c'est normal que la première chose dont il va faire, il va se défendre parce qu'il va penser que c'est encore une technique de manipulation pour après lui faire du mal. Et qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Eh bien, il faut maintenir et rester constant et maintenir cette attitude de cohérence et de bienveillance et de cadre et de tout en maintenant le cadre de façon répétitive, parce que c'est vraiment, et s'il y a vraiment un message clé que je voudrais vous dire aujourd'hui, et ça vous le savez puisque vous êtes encore plus en contact avec ces enfants que moi, puisque nous on peut les voir une fois par mois, on peut les voir une fois tous les deux mois, on peut des fois on les voit une fois par semaine quand c'est vraiment très très grave, et que, mais c'est vraiment les éducateurs qui sont avec eux au quotidien, et les éducateurs qui ont un rôle thérapeutique le plus important, parce qu'en fait dans le trauma complexe, malheureusement dans les traumas aigus, on a plein de thérapies validées, prouvées, on a plein de choses, mais pour le traumatisme complexe, malheureusement on a très peu de thérapies qui ont prouvé vraiment leur évidence et leur force. Et de toute façon, même si on fait ces thérapies, ce qui est le plus thérapeutique, et on le sait maintenant, c'est l'aspect relationnel. Donc j'insiste beaucoup sur ça, parce que c'est vraiment la répétition d'expériences relationnelles positives avec ces enfants qui va finir par induire chez eux un sentiment de sécurité et qui va finir par leur permettre de s'exprimer et de se construire et de un jour devenir des adultes épanouis et productifs, parce que c'est possible, c'est pas irréversible. Donc là, je vais regarder l'heure, parce que moi j'aurais bien aimé laisser quand même 30 minutes pour les questions et pour le débat, parce que je voudrais pas juste passer 1h30 à vous dire des choses, j'aimerais bien vous entendre aussi, donc je garde un œil sur mon téléphone. Et donc il faut différencier aussi entre événements traumatisants et stressants. Donc un événement stressant, le stress, il fait partie de notre vie, et donc il est normal quand on est face à des événements stressants de se sentir anxieux, d'avoir un peu des symptômes physiques, mais en général quand la source de stress elle est plus là, eh bien en général ça va mieux. Quand c'est que du stress, genre par exemple si je passe par une période difficile, ou que j'ai beaucoup de boulot, ou que ça va pas bien avec mon conjoint, ou que mes enfants ont des problèmes à l'école, eh bien une fois que ça se règle, en général je vais me sentir mieux. Un événement traumatisant, par ailleurs, même si l'événement traumatisant n'est plus là, même si la maltraitance n'est plus là, eh bien, la mémoire de ce qui s'est passé et la mémoire de ces événements traumatisants, elle reste là et les effets restent là. Donc le corps et le cerveau, ils sont encore imprégnés de l'effet de ce traumatisme. Et donc ça, c'est aussi important à savoir, et c'est surtout ce que j'insiste aussi, c'est que souvent, quand un enfant qui a vécu un traumatisme chronique et cumulatif est retiré de cet environnement, c'est là qu'il va développer les symptômes. C'est ça qui est paradoxal. C'est qu'une fois qu'il est dans un environnement sécurisant et adapté et sain, c'est là que tous ces symptômes ils vont exploser. Parce qu'avant, il pensait juste à la survie. Donc il faisait tout pour survivre. Et donc une fois qu'il doit plus faire tout pour survivre, il doit réapprendre tous les codes relationnels, tous les codes de la vie en commun. Voilà. Donc on parle beaucoup de traumatismes de type 1 et 2. Eh bien là, j'ai une nouveauté pour vous, pour ajouter encore à la complexité de notre sujet, c'est qu'on parle là récemment de ce qu'on appelle les traumatismes type 3. Et je vais vous expliquer les différences entre les deux. Le traumatisme type 1, on est tous d'accord ce que c'est un événement traumatisant aigu, donc aigu dans le sens où, l'enfant a une vie en tout cas normale, rythmée, sécurisée, dans un environnement protecteur. Et puis, il y a un événement qui vient, qui va faire rupture et qui va traumatiser l'enfant. Ça peut être une agression sexuelle, être témoin d'un suicide, voir une mort brutale, avoir un accident grave, où son intégrité psychique et physique, elle est affectée. Et donc, ce traumatisme aigu, il va venir. Et en principe, l'enfant, une fois que ce danger il est enlevé, l'enfant il revient à son environnement habituel. Et dans ces cas de traumatisme type 1, en considérant qu'il n'y a pas de maltraitance infantile, que l'environnement est tout à fait normal, dans ces traumatismes de type 1, 80% des enfants vont récupérer et vont retrouver leur fonctionnement antérieur et vont retrouver leur capacité adaptative. Parce qu'on est une espèce résiliente et que quand il y a un événement stressant, eh bien notre corps, tout d'abord, c'est normal qu'il réagisse par des réactions de stress aigu. Et au bout de 3 à 4 semaines, ces réactions, en général, s'estompent. Il reste, bien sûr, des marques, des choses dont peut-être il aura envie de parler. Mais en général, 80% des enfants, ils vont aller mieux. Dans le traumatisme de type 2, ce sont des événements, c'est un ou des événements qui sont bien identifiés, mais qui sont répétés. Par exemple, un état de guerre, on va dire. Okay, donc on sait que ce sont des états de guerre. Et il y a des états, parfois ça s'envenime, ça monte, et parfois ça se calme. Et on peut repérer la guerre ou les conflits armés ou les moments de bombardement comme étant des traumatismes. On sait ce que c'est la guerre. Ou par exemple, ça peut être une agression sexuelle par une personne en dehors de la famille qui est faite de façon répétée. Donc l'enfant, il sait que ce qui ne va pas, c'est cette personne qui me fait ça et que ça fait de mananière répétée. Donc le traumatisme type 2, il peut tout à fait entraîner des tableaux de traumatisme complexes. Que ce soit des états de guerre ou des états d'agression sexuelle répétée, ça peut entraîner des traumatismes complexes. Le trauma de type 1 entraîne très rarement des psychotraumatismes complexes. Il va entraîner plutôt des tableaux de ce qu'on appelle des traumas, en tout cas classiques. J'aime pas trop hiérarchiser cette souffrance, mais c'est comme ça, il faut le faire pour des questions pratiques. Donc le trouble de stress post-traumatique classique, dans les traumas de type 1, 20% des enfants exposés aux éléments de trauma type 1, ils vont développer des TSPT classiques. Les enfants exposés aux traumas de type 2 et de type 3 peuvent tout à fait développer des syndromes de stress post-traumatique classiques, mais en plus, ils vont développer tout un tas de symptômes dont je vais vous parler, dans le cadre de ce qu'on appelle le trauma complexe. Et parfois, ce qui peut encore plus brouiller les cliniciens, c'est que parfois les enfants exposés à des traumatismes graves et complexes et cumulatifs et répétitifs, des choses horribles et atroces qu'on penserait que jamais personne ne survivrait, ils n'ont pas de présenté aucun symptôme de PTSD classique, aucun. Mais ils s'automutilent tout le temps, ils sont incapables de faire des relations stables dans le temps, ils sont impulsifs, ils sont irritables, ils sont agressifs. Donc tout traumatisme n'entraîne pas automatiquement un trouble de stress post-traumatique classique. Et le trauma de type 3, c'est le type de trauma, je dirais, le plus délétère, le plus vicieux, le plus insidieux. C'est ce qu'on appelle un stress toxique chronique, pas un stress chronique, mais un stress toxique chronique. Et c'est un environnement où l'enfant n'arrive plus à identifier qu'est-ce qui ne va pas. C'est justement les cas des enfants sévèrement maltraités, négligence, abus, dans le cadre intrafamilial, des enfants auxquels on ne répond pas à leurs besoins, qu'on frappe violemment, qu'on dégrade, qu'on force à faire des choses sexuelles, qu'on force à regarder des choses sexuelles. Donc dans les tableaux des enfants où il y a vraiment, et je ne vais pas vous lister les horreurs, vous les connaissez plus que moi, c'est vraiment un environnement où l'enfant n'arrive plus à repérer qui est l'abuseur, qui est l'agresseur, qui est le bon, qui est le méchant. Donc tout est confus, tout est chaotique dans sa tête. Par moment, ce parent, il peut sembler le protéger et par moment, il va lui faire du mal. Donc c'est vraiment très confus et flou, et c'est ce qu'on appelle le stress toxique chronique ou le traumatisme toxique chronique, qui vraiment, mais systématiquement, va entraîner des tableaux cliniques de traumatisme complexe. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, les réactions de stress aigu sont des réactions normales après un événement traumatique aigu qui vont passer avec le temps dans 80% des cas. Mais bien sûr, il y a des enfants plus fragiles où ces réactions elles vont s'installer. Et à titre d'exemple, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que les enfants qui sont dans des environnements, on va dire, maltraitants, ils sont plus à risque d'être victimes, d'être traumatisés par d'autres événements. Donc ils sont plus à risque, ils sont en fait détectés par d'autres agresseurs. Ils sont plus à risque d'être agressés aussi en dehors du contexte familial. Et souvent, donc ils peuvent avoir les deux en fait. Mais c'est que juste, ça va encore plus aggraver leur problème, puisque l'exposition, un facteur de protection très important après une exposition traumatique, c'est la qualité de l'environnement post-traumatique. Donc c'est comme, je vais vous donner un exemple très simple, très banal. Il n'est pas de moi, mais il est d'un très grand nom. Si vous êtes intéressé à lire sur le trauma complexe, je vous le conseille. Et d'ailleurs, je l'ai mis en référence plein de fois. C'est Bessel van der Kolk qui a écrit « Le corps n'oublie rien ». Et donc, il explique bien la différence. Et il y a une version française traduite, si vous voulez chercher le livre, « Le corps n'oublie rien ». Et dans ce livre, Bessel van der Kolk, il explique en fait la différence entre les traumas complexes et aigus. Et il donne un exemple. Il dit, imaginez par exemple qu'il y a un enfant qui joue dans le parc. Et cet enfant, il est dans le parc avec sa mère, ou son père, parce que c'est toujours la faute à la mère, donc on va dire que c'est le père. Et donc le père qui est là, et il le regarde jouer, et l'enfant, il se fait mordre par un chien. Dans un premier cas de figure, le père, il accourt vers lui, il le prend dans ses bras et lui dit « Oh là là, mon pauvre chéri », il éloigne le chien, il lui met tout de suite un pansement, il lui dit « Comme ça a dû te faire mal, t'inquiète pas, on va te soigner, c'est un méchant chien, je vais m'assurer qu'il ne va plus revenir pour que tu puisses jouer tranquillement ». Il le prend dans ses bras, il lui fait des câlins, il l'apaise, il le soigne. Et dans un autre cas de figure, un enfant qui joue dans le même parc, et c'est le même chien qui vient et qui le mord, et le père, il vient, eh ben tu vois, tu le mérites, je t'ai dit 1000 fois de ne pas jouer là, il a bien fait de te mordre, j'aurais aimé qu'il te morde plus pour que tu apprennes bien. Bon, il va peut-être le soigner, hein, mais il va quand même lui faire porter la responsabilité d'avoir été mordu. Et donc, bien évidemment, à votre avis, quel est l'enfant qui va quand même oublier cette morsure de chien très rapidement et reprendre sa vie? Bien évidemment, c'est le premier. Alors que le deuxième, qui vit probablement dans un environnement où il est constamment dévalorisé, ça va être un traumatisme qui va se rajouter au traumatisme. Donc, pour en revenir maintenant aux effets de cette exposition prolongée et cumulative, c'est surtout qu'elle a une interaction avec le neurodéveloppement. Et c'est pourquoi, souvent, vous voyez, et c'est un très grand débat en psychiatrie, souvent, tous les enfants chroniquement maltraités, ils vont remplir les critères du TDAH. Moi, j'ai vraiment la plupart des enfants qui vivent en foyer que je vois. Si j'ouvre le DSM et je vois les critères, ils sont tous TDAH. Et ils répondent bien au Concerta. Le pire, c'est qu'ils répondent bien au Concerta, parce que quand je prescris du Concerta, ils répondent bien et ils se calment et ils vont mieux. Mais comment savoir si c'est le trauma qui a causé ça, parce que ça a altéré le neurodéveloppement, ou si c'était des enfants initialement prédisposés au TDAH et dont le TDAH s'est aggravé après cette exposition traumatique? Eh bien, je vous dis, moi, je m'en fous, je ne veux pas savoir. Moi, je veux aider cet enfant. Je ne veux pas entrer dans des débats théoriques et intellectuels infinis dont je n'aurai jamais la réponse. Je peux juste dire que cet enfant, son développement a été altéré par une exposition traumatique chronique et cumulative, et que ça a donné des symptômes de TDAH, et que bien sûr qu'il faut traiter le psychotraumatisme, mais s'il est complètement inaccessible à toute forme de traitement pour le psychotraumatisme, eh bien moi je veux l'aider à se sentir mieux, à être plus calme, à pouvoir faire sa scolarité, et je vais lui donner un traitement pour le TDAH, parce que ça va l'aider. Mais je ne vais pas faire que ça, je ne vais pas juste lui donner une pilule, allez, ça va te faire oublier tous tes traumas, bien sûr que non. Je vais apaiser ses symptômes, tout d'abord, avec l'aide des éducateurs et des gens qui l'accompagnent. Je vais d'abord apaiser ses symptômes et après, on pourra commencer à réfléchir un peu par s'il a des symptômes de TDAH, par un traitement pour le TDAH, et s'il n'a pas des symptômes de TDAH, par autre chose, par des techniques de stabilisation, par des stratégies d'apaisement. Ce que je voudrais vous dire ici, c'est qu'en fait, il faut, et je suis sûre que vous l'avez, puisque vous êtes en contact avec ces enfants tous les jours, vous savez que c'est le traumatisme et la maltraitance qui a causé ce que vous voyez chez cet enfant. Il n'y a pas 36 000 débats à faire. Le traumatisme et la maltraitance ont causé ce que vous voyez chez cet enfant, parce que ça a altéré son neurodéveloppement, sa perception de soi et du monde. Après, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas effacer ce qui s'est passé. On ne peut pas aller en arrière, effacer la maltraitance. On ne peut pas... même si lui, il sait que c'est la maltraitance qui a causé ça et qu'il parle pendant des heures de ce que ses parents lui ont fait... Eh ben, au final, ça va lui faire sentir encore pire, parce que le fait de parler, de reparler, de reparler, ça va faire émerger encore plus des symptômes de réactivation post-traumatique. Donc le plus important, et je suis sûre que c'est ce que vous faites, c'est vraiment d'aider cet enfant au quotidien à se reconstruire une certaine image valorisante de soi, d'être capable de construire des relations positives, lui faire expérimenter qu'est-ce que c'est qu'une relation saine, et ça se fait par la relation, ça se fait pas par une thérapie. Donc ça, c'est vraiment qu'il puisse expérimenter que moi je peux faire confiance à un adulte, que cet adulte ne va pas me faire du mal, que cet adulte, s'il me dit qu'il va venir aujourd'hui et me ramener de l'école, je dis n'importe quoi, eh bien il va venir aujourd'hui et me ramener de l'école, et cette expérience répétée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, 1000 fois, parce qu'il faudra le répéter 1000 fois pour contrecarrer les 1000 expériences relationnelles négatives qu'il a vécues, eh bien rien que ça, moi je vous dis que c'est une thérapie. Et vraiment, je le dis et je suis confiante de le dire, et c'est enregistré, et je vous dis que c'est l'aspect relationnel de la thérapie. Après, l'aspect psychiatrique, il est extrêmement important. Mais si je fais cet aspect psychiatrique alors que cet enfant n'a pas ce vécu de quotidien relationnel au quotidien d'expériences relationnelles positives, mes thérapies, elles vont servir à rien. Donc c'est ce que je voudrais en fait vous dire, c'est que c'est vraiment les deux. Et que ces enfants, bon là je regarde même plus les slides, je m'emporte, parce que je trouve que c'est un sujet en fait passionnant, parce que des fois on attend des thérapies qu'elles soignent l'enfant traumatisé, chroniquement, maltraité de façon chronique, mais en fait la thérapie seule avec cet enfant, elle ne pourra pas soigner le fond, elle pourra soigner les symptômes, ce qui est très bien. Moi le Concerta, je vais le prescrire, je vais lui enseigner des stratégies d'apaisement, je vais aider les éducateurs à lui enseigner aussi des stratégies d'apaisement, mais c'est vraiment le vécu positif relationnel et la construction de relations positives et l'environnement positif qui va aider cet enfant à avoir plus confiance en lui-même et à être moins déprimé. Donc cette interaction avec le neurodéveloppement, TDAH, pas TDAH, c'est vrai qu'il y a un taux extrêmement élevé de TDAH chez les enfants maltraités, et il y a des enfants TDAH qui n'ont aucun antécédent de maltraitance. Donc il y a un TDAH au sens neurobiologique, neurodéveloppemental, il existe bel et bien, mais dans les populations d'enfants qui ont une maltraitance chronique infantile, eh bien, on va retrouver un taux de TDAH très élevé. Et mon message est qu'il faut le traiter. Il ne faut pas dire c'est le trauma, on ne traite pas le TDAH. Mon message est que non, il faut le traiter parce qu'il faut faire ce qui est le mieux pour l'enfant, ce qui va rendre le quotidien de cet enfant moins pénible. Impact sur le développement de la personnalité, c'est-à-dire que cet enfant, il va avoir des schémas cognitifs sur lui-même et sur les autres. Je ne mérite pas d'être aimé, je n'ai aucune valeur, je suis nul, les autres vont me faire du mal, je ne peux pas faire confiance à l'adulte, même si elle paraît très gentille cette dame, mais moi je ne vais pas lui faire confiance parce qu'elle est gentille aujourd'hui, mais demain elle va me faire un coup. Et malheureusement, leur vécu, malheureusement, ils partent des fois de foyer en foyer, donc malheureusement avec toutes nos bonnes intentions, le vécu est tel qu'ils sont souvent retraumatisés par ces séparations successives. Malheureusement, ça c'est la réalité, on n'y peut rien. Donc incapacité sur la capacité à maintenir des relations stables, ils font se sentir vulnérables, donc dès qu'ils se sentent vulnérables émotionnellement, ils vont rejeter l'autre. Ça c'est typiquement aussi le cas des femmes par exemple, je pense souvent aux femmes parce que c'est les hommes vont avoir plus un comportement plutôt externalisé, agressif, violent s'ils ont été chroniquement maltraités, alors que les femmes elles vont avoir plus exprimer beaucoup plus une peur chronique de l'abandon quand elles sont adultes, et donc ça va être à chaque fois je suis dans une relation mais je vais quitter avant d'être quittée, et donc c'est un schéma un peu répétitif de je quitte, je pars de la relation parce que je me sens trop fragile émotionnellement et que avant que l'autre ne me quitte et que je sois encore une fois abusée et maltraitée. Altération de la perception de soi et des autres, ça on en a parlé. Comorbidité très élevée avec d'autres troubles psychiatriques. Donc souvent, ces enfants, ils vont être diagnostiqués TDAH, bipolaire, troubles des conduites, troubles oppositionnels avec provocation. Ils vont avoir tout un tas de symptômes. Mais ce n'est pas parce que les psychiatres ils ne comprennent pas le trauma. Ce n'est pas du tout parce que si vous ouvrez le manuel diagnostique et vous voyez les symptômes, ils cliquent tous les symptômes. Donc en fait, et c'est ça. Et le problème, c'est de se dire que bon, il y a ce trauma qui a causé toute cette fragilité et toute cette altération relationnelle, physiologique, cognitive, parce qu'ils ont aussi des problèmes d'apprentissage scolaire plus que les autres, ils ont des problèmes somatiques, ils ont des problèmes physiques, et de se dire, bah là, qu'est-ce que je fais et que, comment moi je peux aider cet enfant. Et donc, voilà, donc là, j'en ai un peu parlé. Oui, ce sont des enfants aussi qui vont avoir beaucoup plus de risque de développer des addictions. Donc vous voyez, on n'est pas seulement dans le trouble de stress post-traumatique classique, on est dans les troubles de la personnalité, dans les tableaux TDAH, dans une augmentation de prise de risque et d'appétence aux drogues, de conduite à risque et aussi de comportement d'automutilation, de comportement suicidaire. Donc ça, on l'a déjà dit, l'exposition à une violence interpersonnelle répétée et cumulative, et on sait maintenant, c'est déjà étudié, si vous avez envie de revoir la référence, on la connaît, c'est une étude américaine qui a suivi des milliers d'enfants dans une cohorte prospective, Adverse Childhood Experience Study, ACE Study, que vous pouvez retrouver, qui a démontré, c'est plus un secret pour personne, que l'exposition traumatique dans l'enfance, surtout si elle est cumulative et prolongée, augmente le risque de développer des pathologies non seulement psychiatriques, mais aussi somatiques à l'âge adulte. Donc souvent, les problèmes somatoformes dont on ne retrouve aucune cause médicale sous-jacente, on découvre après qu'il y a aussi un antécédent de vécu traumatique ou d'événement traumatique. Bon, tout ça, vous allez me dire, ok, tout ça, c'est très déprimant. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la maltraitance infantile, elle cause plein de problèmes, et voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle cause plein de problèmes psychiatriques, somatiques, mais pourquoi c'est important de le savoir ? Parce que c'est important de garder en tête que ces troubles psychiatriques et somatiques qui sont dus à une maltraitance infantile sont très différents des troubles psychiatriques et somatiques qui ne sont pas dus à une maltraitance infantile. Très différents, non pas par leur prise en charge, parce qu'au final, on va devoir traiter les symptômes, mais très différents dans la façon dont nous, on va être avec l'enfant. Parce qu'on sait, et c'est ce qu'on appelle l'approche sensibilisée au trauma, on sait que l'enfant qui a les symptômes TDAH, mais qui est chroniquement maltraité, on sait à quel point l'apport relationnel dans notre thérapie, elle va avoir un rôle thérapeutique. Alors que l'enfant TDAH, bien sûr, l'apport relationnel a toujours un impact thérapeutique, mais un enfant TDAH sans trauma, il n'est pas aussi sensible à ce que je vais lui dire ou à comment je vais me comporter avec lui ou aux questions de cohérence ou aux questions de répétition ou aux questions d'être dans la confiance qu'un enfant qui a des antécédents d'abus traumatiques. Et d'ailleurs, les enfants qui ont des antécédents de maltraitance, ce sont des enfants qui sont très sensibles à des questions de contrôle. Donc vous allez voir, souvent ils vont être opposants, parce qu'en fait ils vivent vos règles et le cadre que vous leur mettez comme une autre forme de contrôle sur eux. Et ça, c'est important à un certain moment, quand vous avez une bonne relation avec eux, de pouvoir leur en parler, de pouvoir leur dire, bah, écoute, moi quand je te dis qu'il est maintenant l'heure de passer à table et que tu ne veux pas passer à table, toi tu le vis peut-être comme si moi je t'imposais quelque chose, ou comme si, parce que peut-être que le moment d'aller à table chez toi, quand tu étais chez toi, c'était accompagné de coups, c'était accompagné de violences, et que maintenant, à chaque fois que je te dis « il est l'heure de passer à table », eh bien, tu vas t'opposer parce que tu sais que moi, je ne vais pas te faire du mal. Donc, tu sais que face à cette opposition, mais c'est aussi une forme, ils testent un peu, ils vont voir, ben, je vais faire ma crise, est-ce que je vais être aussi rouée de coups comme je l'étais à la maison ? Donc, c'est cette compréhension qui va vous aider au quotidien avec les comportements opposant de l'enfant qui a subi une maltraitance dans l'enfance. Donc c'est le fait de comprendre ça. Nous, sur le côté psychiatrique, on va l'apaiser, on va l'aider à se concentrer à l'école, on va peut-être lui donner des traitements, on va faire des thérapies de stratégie et d'apaisement, mais nous, on n'est pas avec lui à table quand il va passer à table. Donc en fait, le fait de pouvoir lui expliquer, quand vous avez une bonne relation avec lui, bien sûr, que le fait de passer à table, ça te fait peut-être penser à comment tu passais à table quand tu étais chez toi, quand c'était toujours accompagné peut-être de violence. Ici, tu es en sécurité, mais tu dois respecter les règles. Et respecter les règles ici, ça ne veut pas dire te soumettre à la volonté maltraitante d'un adulte. C'est très différent. Parce que lui, c'est comment il le vit dans sa tête. Et du coup, il s'oppose parce qu'il se dit « non, non, il y a quelque chose qui va arriver ». C'est ça un peu les schémas de pensée d'un enfant qui est chroniquement maltraité. Donc, voilà. Donc là, maintenant, les dimensions clés du traumatisme, on va dire classique, du trouble de stress post-traumatique classique. On a l'hypervigilance, c'est-à-dire le fait d'être dans un état un peu de sursauter au moindre bruit, d'être très sensible au bruit, d'être dans un état un peu sur le qui-vive. Ça peut exister chez les enfants qui ont eu un traumatisme aigu ou chez les enfants qui ont eu un traumatisme complexe. Ça peut exister chez les deux. On a les phénomènes d'intrusion, donc souvent par exemple les enfants qui ont vécu des événements traumatismes aigus, complexes ou autres, ils vont revivre cet événement, ils vont le revoir en flashback, et souvent vous allez voir pendant un moment qu'ils vont être un peu dans le vague, les yeux ailleurs, et vous allez vous dire mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est très probable qu'ils peuvent peut-être en ce moment être en train de revivre des scènes de ce qui s'est passé. Et dans ce cas, nous, ce qu'on essaie de travailler avec eux, avec l'aide aussi du référent adulte qui vit avec eux, d'apprendre à identifier ces moments où il a des flashbacks. Donc quand il apprend à les identifier et qu'un adulte de confiance les identifie avec lui, on peut dire à l'enfant, eh bien maintenant tu es en train de revivre des scènes que tu as vécues. Mais maintenant, actuellement, tu es en sécurité. Et on va essayer par des techniques plutôt sensorielles, parce que dans ces moments-là, le trauma, c'est quelque chose qu'on vit beaucoup dans son corps. Donc, pour le ramener à la réalité, ce qu'on appelle le recentrage, eh bien, les techniques parfois sensorielles, sur le moment, là, je ne traite pas le traumatisme ni rien. Là, je veux juste le faire sortir de cet état de dissociation et apaiser ces flashbacks. Et je peux essayer par des techniques un peu d'apaisement sensoriel, ça peut être une tisane chaude, ça peut être peut-être un stress ball, un massage sur les mains s'il accepte d'être touché, pour justement se recentrer et apaiser cette reviviscence, donc de revenir dans le moment présent, la sécurité du moment présent. Voilà, donc on a des phénomènes d'intrusion, des cauchemars, parce que vous savez que la mémoire dans le psychotrauma, c'est une mémoire qui n'est pas, les événements traumatiques ne sont pas encodés dans une forme normale de mémoire, c'est une mémoire qui est très fragmentée, qui est très visuelle, donc quand on a vécu des événements traumatisants, des fois on revoit des scènes, mais on ne peut pas reconstituer, surtout si c'est un cas de stress toxique chronique, on ne peut pas reconstituer toutes ces scènes, en un tout cohérent, et donc ce sont juste des images qui nous viennent en boucle ou de façon très, très répétitive. Et ce qui est le plus terrible pour les enfants qui ont vécu un traumatisme, c'est qu'ils ont un sentiment que ces images, que ces flashbacks sont incontrôlables. Et c'est ce qu'on essaie, nous, avec les éducateurs et en thérapie, de travailler avec eux, c'est de reprendre un certain contrôle sur ces images incontrôlables. Mais pour arriver jusque-là, il faut que l'enfant puisse le dire et accepte de dire qu'il a des images. Donc s'il n'est pas prêt à le dire et n'accepte pas de le dire, on va travailler autre chose. C'est pas grave, il y a beaucoup de choses à travailler. Donc en fait, ça demande beaucoup de souplesse. C'est qu'en même temps, garder le trauma au fond de sa tête en tant que clinicien ou éducateur ou assistants sociaux ou n'importe quel professionnel psychologue travaillant avec l'enfant, on garde au fond de notre tête que cet enfant est sévèrement traumatisé et que le trauma, il faut y faire attention. Mais si l'enfant refuse d'en parler, il ne faut jamais le forcer, parce qu'on ne peut pas, il vaut mieux se concentrer sur son adaptation, sa sécurité, ses besoins actuels. Donc le troisième pilier, on va dire, du trouble de stress post-traumatique, on va dire classique, qui peut se retrouver, on l'a dit, dans les deux, c'est le détachement, la dissociation, l'évitement, et souvent ces personnes, elles vont osciller entre des moments où d'hyper-réactivité émotionnelle, donc elles vont être, la moindre chose les fait flamber, la moindre remarque les fait exploser, et entre des moments d'indifférence totale où ils vont être complètement anesthésiés, complètement émoussés, où ils ne vont rien ressentir. Et ça, c'est très, on va le détailler un peu plus tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle aussi la dysrégulation émotionnelle, l'incapacité à réguler ses émotions. Voilà, donc là, pour résumer un peu jusque-là ce que je viens de dire, parce que je sais que j'ai dit beaucoup de choses, donc je voudrais vraiment vous résumer de façon très simple. Quand on a vécu un traumatisme, on a une expérience en général d'impuissance, de perte de contrôle et d'effroi. Ce sentiment d'impuissance et de perte de contrôle, pour le contrecarrer, comment on va le contrecarrer ? Chez les enfants et les adolescents en général, pour contrecarrer ce sentiment d'impuissance et de perte de contrôle, ils vont être opposants, puisqu'ils vont vivre les règles et le cadre comme une façon de leur refaire perdre le contrôle. Et ils vont s'opposer, ou bien ils vont être en retrait. Donc moi, je vais être à nouveau menacée, et donc ne vous approchez pas de moi. Comment on peut travailler ça ? Eh bien, déjà, on peut être constant avec eux. Donc, si on a un cadre, le cadre doit rester constant. Si on est présent avec eux, notre présence doit être constante. De ce qu'on va leur dire de faire, on le fait. Et ce qu'on dit qu'on ne fait pas, on ne le fait pas. Et ça, ça peut arriver avec n'importe quel enfant. Moi, des fois, je dis à mon gosse, oui, on va faire ça. Et après, je ne le fais pas. Ça arrive. Ce n'est pas grave. Bon, mon gosse, a priori, il n'est pas traumatisé. Mais si vous faites ça avec un enfant qui a vécu un traumatisme chronique, c'est énorme pour lui. C'est énorme. Il peut se suicider, il peut faire une tentative de suicide après ça. Il peut s'automutiler après ça. Ce n'est pas pour vous faire porter la responsabilité, mais c'est pour vous dire que pour un enfant traumatisé, cette forme d'inconsistance, elle est extrêmement grave, alors que pour un enfant normal, ça arrive, il peut s'adapter, il peut comprendre qu'il y a des imprévus. Et c'est ça qu'il faut vraiment être très vigilant, l'aspect relationnel du psychotraumatisme avec l'enfant. Pourquoi c'est tellement important? Pourquoi il fait une crise quand vous lui dites, je dis de passer à table, parce que j'entends ça très souvent, qu'il refuse de passer à table, tout ça. Et donc il faut essayer d'expliquer à l'enfant que là, ce refus que tu fais et cette opposition que tu fais, moi, je pense qu'elle est liée à ce que tu as vécu chez toi. Parce que quand ça se faisait chez toi, tu finissais par être, par souffrir ou on finissait par te faire du mal. Mais ici, ça ne va pas t'arriver. Ici, moi, je ne vais pas te faire du mal. Donc là, tu vas aller à table et tu vas voir et tu vas comprendre que je ne vais pas te faire du mal. Après, ce n'est pas magique. Il va vous dire oui, non, je ne veux pas, etc. Non, je ne dis pas que c'est magique, mais je dis que c'est ça, une approche sensibilisée au traumatisme chez des enfants chroniquement maltraités qui vont être très, très sensibles à ce genre de choses. Donc, impuissance, perte de contrôle, effroi et des réactions qui vont venir contrecarrer ce vécu. Ensuite, le deuxième message que j'avais dit, c'était que dans le traumatisme de type 1 aigu, 80% des enfants, ils vont retrouver leur fonctionnement antérieur et que la qualité de l'environnement post-traumatique immédiat, elle joue un rôle énorme pour que ces enfants, ils aillent mieux. Alors que dans le traumatisme de type 2, qui est un événement bien identifié, mais qui est répété et cumulatif, ou dans le traumatisme de type 3, qui est le type de traumatisme le plus grave, qui est cette maltraitance chronique où l'enfant n'arrive même plus à comprendre qui est le sauveur, qui est l'agresseur, où est le traumatisme, qu'est-ce qu'il me fait, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, tout est flou. Dans ces tableaux-là, la plupart des enfants vont développer de traumatismes complexes. Quelle est donc la différence entre un traumatisme, on va dire, classique et complexe? Le traumatisme complexe, il va aux trois symptômes principaux qui sont les phénomènes d'intrusion, l'évitement et l'hypervigilance. On va rajouter des problèmes de régulation émotionnelle, donc ils vont avoir beaucoup de difficultés à réguler leurs émotions, des problèmes interpersonnels, une peur d'être abandonné, faire tout pour se protéger de l'autre, l'autre ne peut jamais me faire du bien, je suis nul, je ne vaux rien, je ne suis pas valorisé, etc. Une plus grande fréquence de comportement suicidaire, une plus grande fréquence de tous les autres troubles psychiatriques, une comorbidité très importante avec le TDAH. Ok, ça vous va? C'est clair? Donc, là, on arrive un petit peu, donc pour résumer un petit peu le tableau des psychotraumatismes complexes, dans ce qu'ils vivent, on va avoir une perte du sentiment de sécurité personnelle, souvent aussi des troubles de l'identité, donc ils vont être plus à même d'avoir un peu des troubles au niveau identitaire, qui je suis, qui je veux être, des questionnements, altération donc du développement émotionnel et social, de la capacité à maintenir des relations interpersonnelles stables, difficulté à réguler et gérer ses émotions, ce qu'on appelle la dysrégulation émotionnelle. Ce diagnostic, il est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, qui l'a introduit dans son manuel, dans sa classification des maladies 11e édition, mais par contre, il n'est pas encore reconnu dans le DSM. Le DSM-5, il reconnaît le trouble réactionnel de l'attachement, mais c'est chez les très jeunes enfants. Et on est d'accord qu'ici, principalement, il y a un trouble de l'attachement. Mais le trouble de l'attachement, il a été décrit surtout chez les enfants. Alors qu'ici, ça intègre le trouble de l'attachement et ça donne une vision quand même beaucoup plus globale et intégrale de ce qui se passe chez un enfant qui est chroniquement maltraité. Une perception négative de soi-même et des autres, l'expression fréquente de colère et d'agressivité par crainte de vulnérabilité émotionnelle et de réexpérimenter des traumatismes, risque élevé d'abus de substances et d'automutilation pour apaiser la douleur émotionnelle. Et souvent vous allez, en fait, c'est très difficile de gérer avec ces enfants parce qu'en même temps, on veut les aider, on a envie de les aider, on s'imagine même pas, quand on s'imagine une seconde ce qu'ils ont vécu, on se dit, mais comment, enfin, ils ont quand même survécu, c'est quand même des enfants qui ont survécu à des choses atroces. Personne ne s'imagine un père ou une mère faire subir ça à son propre enfant. Pour nous, c'est inentendable, c'est inimaginable. On a beaucoup d'empathie envers eux. Et pourtant, des fois, on est irrité par eux, on n'en peut plus parce qu'ils nous manipulent, parce qu'ils font tout pour nous provoquer, parce qu'ils vont faire des... Oui, parce qu'eux, c'est le modèle relationnel qu'ils ont eu. Ils ont eu un modèle de relationnel basé sur le double discours, la langue de bois, la manipulation, la culpabilisation. Donc, ils vont répéter ces mêmes schémas avec nous. Et ça, c'est important de le comprendre et de pouvoir le déjouer. Et bien sûr, un risque élevé de substances et d'automutilation pour apaiser la douleur émotionnelle. Donc, souvent, on va avoir deux tableaux qui vont osciller. Soit ça va être des comportements externalisés, donc hyperactivité, agressivité, impulsivité, soit ça va être des comportements internalisés, donc évitement, isolement, dissociation. Et ça va être vraiment une oscillation entre les deux. C'est ça qui fait toute la complexité de ce tableau, c'est que par moment, ils vont avoir une réactivité émotionnelle très marquée et par moment, une indifférence. Et on a déjà parlé des diagnostics différentiels, mais qui peuvent aussi être aussi comorbides. On sait aussi que le traumatisme complexe, il altère malheureusement aussi les apprentissages et les capacités cognitives. Mais, et je vous le répète encore, même s'il reste quand même plus vulnérable, c'est réversible. Et on a vu des enfants chroniquement maltraités qui, après, dans leur vie adulte, arrivent à s'en sortir, à avoir un projet de vie. Ils vont avoir toujours un peu de vulnérabilité. Ils vont toujours être un peu vulnérables ou plus vulnérables que d'autres. Mais c'est possible qu'ils se reconstruisent. Et je vais vous expliquer un peu comment. Voilà. Donc, par rapport maintenant à une vision globale de la prise en charge. En fait, je dis prise en charge, mais j'ai un peu de réticence à dire ce mot parce que prise en charge, ça sonne tout de suite médical. Comme si, en fait, le traitement de ces enfants chroniquement maltraités est un traitement médical ou psychothérapique. Je suis désolée, j'ai l'impression qu'il y a je ne sais pas si vous le sentez aussi ou pas. Ouais. Bon, moi, je vais essayer sans micro, mais... Et donc, quand on dit prise en charge, c'est comme si on disait, ok, il a un trouble bipolaire et je vais lui donner des thymorégulateurs et une psychothérapie comportementale bien, bien corsée. Ah ouais, d'accord. Ok, oui, c'est peut-être un peu mieux. oui, c'est mieux. Et donc, quand je dis prise en charge pour les enfants chroniquement maltraités, et d'ailleurs, c'est pourquoi il y a tellement d'acteurs face aux enfants qui ont subi une maltraitance chronique, on ne peut pas mettre des acteurs médicaux seulement. Il y a des acteurs juridiques, il y a des acteurs sociaux, il y a des éducateurs et des éducateurs. Donc, c'est un système très intégré de protection dont les médecins ou les psychiatres sont un des piliers de la prise en charge. Parce que même si on fait une thérapie tous les jours à ces enfants, s'ils ne sont pas dans un environnement qui leur permet de s'épanouir et s'ils n'expérimentent pas des relations positives, et je reviens sur cet aspect relationnel du traumatisme qui est extrêmement important. Si l'enfant n'expérimente pas des relations positives dans son entourage, s'il vit dans un environnement toujours délétère pour lui, même si je lui fais une séance de thérapie par jour spécialisée sur le trauma, il ne va pas aller mieux. Donc c'est important de comprendre cet aspect parce que justement, dans la pyramide, on va dire que la pyramide d'intervention et la pyramide des besoins, actuellement, on conceptualise la résilience d'une façon socio-écologique et multisystémique. On n'est plus dans ces modèles de résilience où celui-là, il est résilient, bien pour lui, il a des gènes forts. Et l'autre, le pauvre, il n'est pas résilient, ben, il n'a pas de chance. En fait, non, on peut être... La résilience, c'est un concept très dynamique. Même les adultes ou les enfants qui ne sont pas soumis à aucun traumatisme, leur résilience face au stress, elle peut être très dynamique. Par moments, on peut être très résilient. Quand on est dans une période de notre vie où on est bien entouré, bien soutenu, on a les ressources qu'il faut pour faire face au stress. Et dans d'autres périodes, on peut se sentir moins résilient parce qu'on a moins de ressources, parce que notre environnement, on est dans un environnement qui est... on fait un changement d'environnement ou ça va un peu moins. Donc cette conception de la résilience comme un concept dynamique, elle est très importante. Ce n'est pas quelque chose de statique, on l'a ou on ne l'a pas. J'ai les cheveux noirs ou j'ai les cheveux blonds et c'est bon. Non, c'est vraiment quelque chose de dynamique qui peut évoluer tout au long de la vie et qu'on peut travailler tout au long de la vie et d'autant plus avec les enfants chroniquement maltraitée. Donc, elle va beaucoup dépendre, cette résilience, elle n'est pas seulement liée à la capacité de l'individu à utiliser les ressources disponibles, mais aussi à un environnement à fournir ces ressources. Donc déjà, le départ de ces enfants dans la vie, c'est un départ malheureusement pas favorable pour eux, puisque personne ne leur a appris. L'enfant, il apprend par modèle. Il y a bien sûr des composantes tempéramentales, génétiques, on ne le nie absolument pas. Mais l'enfant apprend par modèle. L'enfant, on ne naît pas tous zen, est capable de gérer nos émotions. On apprend, l'enfant, il apprend à gérer ses émotions. Quand il voit comment son père ou sa mère gère sa colère, eh bien, il va apprendre aussi comme ça. Et l'enfant maltraité, qu'est-ce qu'il a appris durant les premières années de sa vie, autre que ce que vous connaissez. Et donc, il faut lui réapprendre. Tout ce qu'en général, on apprend à un enfant de 2 ans, de 3 ans, avec un enfant qui est chroniquement maltraité, il faut le lui réapprendre. Il faut lui réapprendre qu'on peut faire confiance aux gens, quand les gens comment se comporter avec les gens. Il faut le réapprendre que la colère, que s'il est en colère, il ne va pas perdre l'adulte, et l'adulte ne va pas arrêter de l'aimer, qu'il a le droit d'exprimer des émotions négatives, que s'il exprime des émotions négatives, ça ne va pas menacer la relation. Et tout ça se réapprend dans la relation. Donc on a, si vous voyez, les besoins de tout être humain et de tout enfant, les besoins physiologiques, et ces besoins ils sont même pas fournis des fois dans les cas de maltraitance, les besoins de sécurité, les besoins d'amour et d'appartenance, les besoins d'avoir une certaine valorisation, et jusqu'à arriver à ce qu'on appelle le développement de soi, ou le fait de pouvoir exprimer ou vivre son potentiel. Et donc il faut garder cette pyramide en tête, parce que quand on vient de recevoir un enfant qui est extrait en urgence d'un environnement très maltraitant, il faut avant tout lui assurer les besoins physiologiques et de sécurité. Et ensuite, on peut travailler sur la relation, l'amour, le sentiment d'appartenance et le fait de pouvoir se réaliser petit à petit. Donc ces besoins, bien sûr, ce sont aussi des droits, et c'est pourquoi d'ailleurs il y a tous les acteurs juridiques et sociaux qui sont impliqués. C'est pas un trouble psychologique, c'est une maltraitance infantile, donc c'est très différent. Ça induit, la maltraitance induit des troubles psychologiques chez l'enfant, mais il faut aussi la traiter, la prévenir en tant que, aussi sur le plan juridique et légal. Donc il faut, et après la deuxième pyramide, la plus grande, c'est une pyramide qui a été élaborée surtout dans les milieux des ONG, des acteurs humanitaires, dans des contextes de guerre, de réfugiés, et qui fait en fait, qui appuie l'importance sur les services de sécurité de base, les services communautaires et dans l'environnement proximal de l'enfant et la famille, parce qu'il y a peut-être aussi des membres de la famille de cet enfant à part ses parents qui peuvent être présents, qui peuvent jouer un rôle, les supports qui sont non spécialisés, comme par exemple des stratégies d'apaisement, des stratégies de relaxation, un accompagnement non spécialisé, et les thérapies spécialisées où on va revoir la mémoire traumatique, retravailler le souvenir traumatique et essayer d'intégrer ça dans la vie de l'enfant sans que ça lui cause autant de souffrance à chaque fois. Mais tous les enfants, par exemple, des foyers, ne peuvent pas faire de thérapie spécialisée ou en fait, ils ne doivent pas faire de thérapie spécialisée. Ils doivent surtout, avant tout, avoir ces trois piliers, les trois premiers piliers. Donc, un support au quotidien à travers une relation, des supports communautaires, donc qui soient aussi intégrés dans une école, dans une communauté, des services de base, ça c'est sûr. Et les services spécialisés, ils viennent surtout pour traiter tout ce qui va venir avec les symptômes associés, les dépressions, l'anxiété, les comportements suicidaires, etc. Mais le trauma en lui, il peut être géré rien qu'à ces trois niveaux-là, en première ligne. Voilà, donc il faut garder en tête que quelle que soit la modalité d'intervention, qu'on soit une psychologue spécialisée EMDR en train de travailler avec un enfant maltraité, qu'on soit un éducateur avec lui en foyer, qu'on soit un psychiatre qui le voit une fois par mois ou une fois tous les trois mois, qu'on soit une enseignante, comment j'ai pas mentionné les enseignants alors que c'est des piliers de cette approche intégrale, vraiment c'est encore plus important, eh bien toutes ces modalités à plusieurs niveaux doivent être sensibilisés au psychotraumatisme, donc garder le psychotraumatisme au fond de sa tête et se dire que ma relation, elle doit prendre en compte que cet enfant est traumatisé et comment je dois parler avec lui et comment je dois être avec lui. Donc en insistant sur la sécurité physique, sécurité psychologique, sécurité émotionnelle et en créant des opportunités pour reconstruire un sentiment de contrôle, d'efficience et de détermination sur leur vie. Donc quand je dis reconstruire, c'est très beau tout ça, reconstruire un sentiment de contrôle, d'efficience et de détermination sur leur vie, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire essayer autant que possible, dans la mesure du possible, de les impliquer dans le choix qui les concerne. Parce que ce sont des enfants peut-être qui ont vécu dans des environnements où on ne les considérait pas comme des êtres humains, on ne les considérait même pas, on ne validait jamais leurs émotions. Et donc il faut essayer autant que possible de leur donner une marge de contrôle sur leur propre vie en leur donnant un peu le choix dans ce qu'ils peuvent choisir, bien entendu. Donc en les prenant un peu comme acteurs aussi de leur propre vie, comme acteurs de la décision et non pas comme réceptacle passif des services juridiques, services sociaux, services médicaux. Et lui, il est là passif et il reçoit tous ces services et il le vit peut-être comme encore plus de contrôle sur lui. Il va se rebeller et s'opposer. Donc essayez de le faire vraiment faire intervenir en tant qu'acteur principal de sa vie. Donc ces piliers de l'approche sensibilisée au psychotrauma, et l'approche sensibilisée au psychotrauma, vraiment, elle n'est pas l'apanage des spécialistes. Moi, ça, c'est vraiment mon discours partout où je vais. C'est que, bien sûr, les spécialistes sont là pour cibler les symptômes bien précis, pour traiter, pour donner des traitements, pour apaiser. Mais tout le monde doit être formé au psychotrauma. Les policiers, les juristes, les avocats, tout le monde qui est en contact avec un enfant maltraité doit avoir cette approche que vous avez sûrement déjà, de penser à la sécurité, la connexion relationnelle, la gestion des émotions et comment promouvoir la résilience chez son enfant, comment promouvoir ses capacités d'adaptation. Voilà, donc en fait, et c'est pourquoi c'est aussi important de repérer les situations traumatiques et de faire de la prévention secondaire, c'est-à-dire que dès qu'on voit ces enfants, de commencer un peu à appliquer ces piliers de l'approche sensibilisée au traumatisme dont je vous ai déjà parlé, que ce soit au niveau des soins primaires et secondaires, médecins scolaires, médecins traitants, cellules d'urgence ou services sociaux, et surtout de renforcer ce qui peut beaucoup aider ces enfants, c'est s'ils sentent qu'ils ont quand même un certain sentiment d'appartenance à un milieu de vie. Après, c'est sûr que ça dépend du milieu de vie, mais plus l'enfant, même les enfants dans des familles d'accueil, quand ils sentent qu'ils arrivent quand même à avoir un sentiment d'appartenance tant soit minime à cette famille, ils vont beaucoup mieux, ils ont beaucoup moins de problèmes de comportement que les enfants qui se sentent pas du tout, ils se sentent pas du tout adhérés, quoi. Donc, et ça peut être aussi sur le plan scolaire, ça peut être sur le plan des activités, une action un peu communautaire enfin, qui leur donne quand même un sentiment d'appartenance et donc d'utilité et donc de valeur peut aussi beaucoup aider ces enfants. Voilà, donc en général, comme je vous ai dit, quand un enfant arrive et qu'il vient d'être extrait d'un environnement maltraitant, il est bien sûr important de ne pas faire de debriefing psychologique avec lui immédiat, parce que le fait de... Déjà parce qu'il ne peut pas repérer ce qu'il a vécu, si c'est un état de trauma, de stress toxique chronique, souvent il ne va pas être capable de repérer ce qu'il a vécu, il ne va pas pouvoir parler, et donc il ne faut pas vraiment insister sur le fait de le faire parler. Moi je pense qu'il faut surtout insister sur le fait de le faire sentir en sécurité. Et c'est surtout vraiment, là maintenant toutes les recommandations, elles misent surtout là... elle mise sur des approches plutôt communautaires qui aident l'enfant à faire face à des facteurs de stress quotidiens et à renforcer les facteurs de protection dans un premier temps plutôt que les approches cliniques et individuelles centrées sur les symptômes post-traumatiques. Ok, donc là je l'ai déjà dit. Voilà. Après, pour ceux qui sont stabilisés, donc une fois qu'un enfant a des symptômes post-traumatiques qui sont stabilisés, qu'il n'a plus de comportement suicidaire, qu'il n'est plus dans l'opposition constante, qu'il arrive à peu près à gérer sa vie au quotidien, c'est là qu'on peut attaquer de front le noyau psychotraumatique ou le traumatisme en lui-même. Okay ? Un enfant qui n'est pas stable psychologiquement, on ne peut pas venir lui faire, par exemple, à mon humble avis, on ne peut pas venir lui faire de la TCC centrée sur le trauma, ni même de l'EMDR, parce que ça peut vraiment l'aggraver. Il peut avoir, ça peut réactiver encore plus ses symptômes. Il n'est pas prêt, il faut d'abord le stabiliser. Une fois qu'il est stabilisé, et si lui accepte et veut, et c'est sa demande, là on peut proposer des thérapies spécialisées. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup de spécialistes qui le font. Et moi, je pense que si on appliquait d'abord les trois piliers de la pyramide, il n'y en aurait pas autant d'enfants qui auraient besoin de ces thérapies spécialisées. Après, vous allez me dire, est-ce que si cet enfant ne fait jamais de thérapie spécialisée centrée sur le psychotrauma, est-ce qu'il peut vraiment aller mieux un jour? Moi, je dis que oui. Même s'il ne fait pas de thérapie spécialisée sur le psychotrauma, mais qu'il vit dans un environnement sécurisant, qu'il a stabilisé ses symptômes, qu'il a compris ses symptômes, qu'il a peut-être fait une thérapie plutôt de support pour l'aider dans son quotidien, dans sa gestion de résolution des conflits, dans sa régulation émotionnelle, tout ce qui l'a aidé au quotidien à être épanoui et à se retrouver, même s'il n'a pas travaillé le souvenir traumatique, il peut avoir une vie pour lui qui soit satisfaisante. Bien sûr, c'est toujours mieux de travailler le souvenir traumatique. Mais je préfère que ça soit lui qui le veuille, lui qui le demande, parce que encore une fois, c'est sa vie. Et une fois qu'on a stabilisé les symptômes urgents, c'est vraiment lui ou elle qui est actrice de sa propre vie, qui peut, en étant adulte peut-être, prendre la décision de vraiment revenir vers ce souvenir traumatique et le travailler. Tout ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est ça, impliquer l'adolescent et l'adulte et l'enfant qui a un vécu traumatique dans sa propre prise en charge, bien sûr, quand ce n'est pas un risque imminent, quand il n'y a pas de comportement suicidaire. Là, je parle de l'enfant qui est stabilisé, qui est scolarisé, qui a appris des techniques de régulation émotionnelle, qui expérimente des relations positives, qui commence. Donc là, je parle dans le cas de l'enfant qui n'est plus en danger psychologique aigu. Est-ce qu'il faut ou non lui faire de l'EMDR et, ou de la TCC centrée sur le trauma? Et ben moi je dis, c'est à lui de voir. Nous on lui explique et c'est à lui de décider, c'est à lui de voir. Et finalement, il ne faut pas oublier aussi quelque chose, c'est que dans les enfants qui sont chroniquement maltraités, même si on arrive avec eux à un moment où ils sont stables, où ça va bien, il faut toujours garder en tête qu'il y a un ajustement à la vie quotidienne après le trauma et qu'il faut surtout donner des perspectives d'avenir à cet enfant. Donc travailler surtout sur comment il se projette sur l'avenir, lui donner des perspectives d'avenir et de renforcer ses stratégies d'adaptation en identifiant aussi les facteurs de risque qui lui font réexpérimenter des symptômes, que ce soit post-traumatique ou des symptômes oppositionnels ou dépressifs et anxieux. Donc c'est un travail au quotidien qu'il faut faire avec ses enfants pour les aider en même temps à promouvoir des comportements adaptatifs et à se construire une vision positive d'eux-mêmes et à identifier les facteurs de risque qui pourraient les faire replonger dans des comportements à risque pour eux. Et ne pas oublier bien sûr que pour tout enfant adolescent, la santé mentale des enfants et des adolescents, qu'ils soient traumatisés ou non, elle est en interaction étroite avec l'environnement familial. Dans ce cas, s'il n'y a pas de famille avec les adultes de confiance à qui il est confié, avec l'environnement social et scolaire, et ça ne peut pas être juste individualisé à l'enfant. Genre, on fait une thérapie individuelle à l'enfant et tout va bien. Non, il faut toujours que ça soit intégré dans ces trois aspects pour espérer les aider à se reconstruire et à se projeter dans l'avenir, comme je vous l'ai déjà dit. Et voilà mon propos pour aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien qu'on ait encore 25 minutes pour les questions et le débat. Et si vous avez des commentaires, des questions, des choses que vous voudriez souligner, voilà, je suis à votre écoute.